Alors, Québec a annoncé hier que la troisième dose du vaccin sera disponible pour les personnes âgées qui vivent dans des centres de soins de longue durée, dans des résidences privées, des ressources intermédiaires, et que cette campagne de vaccination va être jumelée à celle qui est prévue pour l'influenza. Et donc, quelque part à la fin octobre, on devrait être en mesure de le faire. On va faire le point, justement, sur cette troisième dose avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Première question simple un peu que les gens se posent. Est-ce qu'elle est différente des deux premières qu'on a reçues ou c'est carrément la même chose?
C'est carrément la même chose, sauf pour les gens qui ont déjà reçu, par exemple, des doses d'AstraZeneca ou du vaccin Covishield qui est un dérivé d'AstraZeneca. Mais il faut comprendre qu'actuellement, les deux vaccins qu'on a au Canada, Pfizer et Moderna, donc ceux qui ont reçu du Pfizer vont recevoir une dose de Pfizer, ceux qui ont reçu du Moderna vont recevoir une dose de Moderna. On peut interchanger les doses entre ces deux fabricants, c'est pas quelque chose qui est complètement impossible à faire. Ça a été fait, puis ça marche bien. Maintenant, c'est pas la routine habituelle. Mais par contre, pour les gens qui ont reçu, par exemple, une première dose d'AstraZeneca, souvent, ces gens-là ont reçu une deuxième dose de Pfizer ou Moderna, donc ils vont recevoir la troisième dose qui risque de ressembler à la deuxième. Et il y a quelques individus qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca, ben eux, ils recevront soit le Pfizer, soit le Moderna.
Et il n'y a pas de contre-indication?
Non, il n'y a pas de contre-indication à recevoir une dose d'un vaccin différent. Disons que globalement, c'est équivalent. Dans la littérature médicale, il y a des articles et des gens qui ont dit même, au contraire, c'était peut-être avantageux de recevoir des vaccins différents, que ça stimulait le système immunitaire à différents endroits et donc, en bout de ligne, on était peut-être mieux protégé, on avait plus d'anticorps. D'autres articles qui ont dit le contraire, mais la somme et la réalité, si on peut résumer, c'est que c'est équivalent.
Maintenant, le fait de jumeler cette troisième dose avec le vaccin pour l'influenza, est-ce que là, il y a des risques? Il y a des gens qui se disent, est-ce que je prends les deux en même temps, là?
Ben, il y a des risques que vous pouvez avoir plus d'effets secondaires parce que lequel va vous donner des effets secondaires par rapport à d'autres. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de risque qu'un empêche l'autre de fonctionner. Il faut dire qu'on a une très faible saison d'influenza actuellement. On n'a quasiment pas de grippe. L'an dernier, on a eu une année exceptionnelle dans le sens qu'on a eu quasiment zéro grippe. Donc, il n'y a pas eu de grippe. Et l'ensemble des mesures qui avaient été prises, finalement, pour empêcher la COVID de se propager, c'est-à-dire le masque, la distanciation, le fait d'isoler les gens, le couvre-feu, l'ensemble des mesures qui avaient été prises, le fait que, par exemple, l'école avait été extrêmement réduite, puis il n'y avait pas de cégep et pas d'université en présentiel, tout ça avait fait que la grippe l'an dernier n'existait pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une grippe cette année? C'est possible, à mon sens, ça risque d'être une petite année ou très petite. Là, on voit d'ailleurs l'activité grippale est nulle au Québec actuellement. Donc, on voit qu'il n'y en a pas de grippe. Ce qu'on voit, c'est que dans les pays de l'hémisphère sud, vous savez qu'ils sont toujours en avance d'une saison parce que leur hiver, c'est notre été. Donc, lorsque nous avons traversé l'été, c'était l'hiver, disons, en Australie, au Brésil, en Argentine. Ça a été des saisons de grippe, on va dire, extrêmement faibles. Donc, la chance, c'est que la grippe ne frappe pas trop vraiment à nos portes. Et si on reste comme ça, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Mais pour résumer les choses, que vous ayez les deux vaccins ensemble, l'un n'intervient pas avec l'autre, donc il n'y a pas de contre-indication. Oui, vous pourriez, par exemple, avoir plus de réactions parce que vous allez réagir au vaccin contre la grippe et vous allez réagir ou vous allez réagir au vaccin contre la COVID avec des effets secondaires attendus. Donc, ça va être l'un ou ça va être l'autre.
OK, parlons des enfants. Parce qu'on est toujours dans l'attente. Je pense que Pfizer n'a pas encore soumis ou est sur le point de le faire, là, ses études concernant la vaccination des plus jeunes. Québec dit ben, quand ça va être autorisé, peut-être fin novembre, au début de l'année. Mm-hmm. Pour les enfants actuellement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de cas. Je regardais la fréquentation de l'urgence pédiatrique, bon, Sainte-Justine et autres, des parents qui se présentent. Parfois, c'est des symptômes de COVID, puis parfois, c'est autre chose. Comment on explique cette situation-là? L'indice grippal, vous dites, est bas, mais les enfants, eux, sentent moins bien.
Ben, il y a d'autres virus, par contre, qui circulent. Alors, l'indice grippal est bas, mais le RSV, le virus respiratoire syncytial, est présent au Québec de façon, je dirais, non négligeable. Il y a eu plus de 500 cas répertoriés la semaine dernière. Vous savez que tous les laboratoires de microbiologie du Québec suivent un certain nombre de virus, on compile les données au niveau du ministère de la Santé, et donc on a une espèce de courbe hebdomadaire du nombre de virus isolés au Québec. c'est une sous-représentation de la réalité, parce qu'évidemment, on ne teste pas tout le monde. Donc, on a probablement seulement un 20e ou un 30e des cas réels. Mais on sait que ça nous donne une idée de ce qui circule dans la communauté. Et on sait qu'actuellement, il y a même certains virus de la grippe, des coronavirus, mais pas corona, bien sûr, COVID, le coronavirus commun responsable de la grippe qui circule. On sait qu'il y a surtout du virus qu'on appelle le RSV. Donc ça, ça se peut que les enfants soient affectés par ça. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Mais là, je vous dirais, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Le fait d'avoir rouvert les garderies, retourner à, si vous voulez, un présentiel, surtout pour les plus petits, c'est sûr que ça favorise l'émergence de virus respiratoires à cette saison de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une perte de contrôle de la COVID pour l'instant. Puis il y a aussi une théorie qui est intéressante, mais qu'on appelle l'interférence en virologie, qui dit que lorsqu'on est infecté par un virus, il y a une compétition entre les virus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à se faire infecter avec l'un pour éviter l'autre. Mais souvent, lorsque vous avez deux virus, disons que vous attrapez le RSV, le virus respiratoire syncytial, ben, il ne voudra pas laisser sa place à un autre virus. C'est-à-dire que une fois qu'il est chez vous, ben, il empêche les autres virus de rentrer dans vos cellules et donc il veut garder l'exclusivité. Alors souvent ce qui arrive, c'est que lorsqu'un virus a tendance à prendre le dessus, les autres ont tendance à plutôt être faibles. Et d'ailleurs on le voit au Québec sur des années, on a des grosses années dans le passé d'influenza, donc de grippe, et puis on a des petites années de gastro-entérite. Et des fois ben, c'est le contraire, on a de grosses années de gastro-entérite, de petites années de grippe. Donc, mais même si c'est deux cycles différents, un est respiratoire et l'autre est digestif, souvent on voit cette interférence entre les virus. Donc il y a une compétition aussi entre les virus, et on sait que chez les enfants, avec le retour à l'école, la garderie, tout ça, c'est normal d'avoir les rhumes habituels qui reviennent, on va dire.
Je regardais le tableau du ministère de la Santé. 84% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu la deuxième dose, 89% au moins une dose. À quel moment, puis est-ce que c'est une référence pour se dire, ben là, collectivement, on est pas mal vaccinés, on peut tranquillement y aller d'assouplissement puis d'allègement des mesures sanitaires?
Bon, la première chose qu'il faut souligner, je pense que le Québec est une des juridictions où on a le plus fort taux de vaccination dans le monde, et ça, c'est extraordinaire et c'est très, très bien. Il faut voir que l'immense majorité, quasiment 90% des Québécois, sont aujourd'hui doublement vaccinés et protégés. Donc, sur cet aspect-là, on peut être que très satisfait. La deuxième chose, on le voit, cette quatrième vague n'a pas du tout l'impact que les autres vagues ont eu au Québec, puisque le nombre de cas, on va dire, stagne autour de 700, 800 en moyenne. Le nombre d'hospitalisations n'a certainement pas augmenté de façon drastique au point de faire crouler le système de santé. Même, je vous dirais que la majorité, l'immense majorité des hospitalisés, ce sont des non-vaccinés beaucoup plus jeunes. Donc, on s'aperçoit que finalement, la vaccination a fonctionné. Et on est retourné dans une société presque normale. Hein. Écoutez, on va au gym, on va à l'école, on va au restaurant, on fait des activités culturelles, on fait du sport. Les gens se reçoivent, les écoles ont complètement ouvert. Hein. Vous voyez les universités, les cégeps, etc. Donc, on est retourné vers une vie assez normale, complètement normale. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde, là, global, où la COVID n'est pas partout contrôlée comme elle l'est au Québec. Donc, c'est clair qu'on n'est pas encore dans un retour à la vie normale et il va falloir apprendre à vivre avec cette espèce d'équilibre entre, je vous dirais, un nombre de COVID à feu doux qui est tout le temps persistant, qui est en arrière, si vous voulez, de notre tête, mais un contrôle de l'épidémie à l'échelle du Québec qui nous permet, pour l'instant, de continuer à avoir une vie normale, puis il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas comme ça.
Est-ce que vous croyez qu'après cette troisième dose, quelque part l'an prochain, il y aura une quatrième dose et que ce vaccin-là va devenir peut-être même annuel comme les celui de la grippe?
C'est fort possible. C'est un vaccin. Le virus de la COVID est un virus à ARN comme celui de l'influenza. Ce sont des virus respiratoires, ce sont des virus qui mutent beaucoup et ce sont des virus qui sont présents continuellement sur la planète. C'est-à-dire que pour se débarrasser de la COVID, il faudrait se débarrasser de la COVID à l'échelle planétaire. Et tant qu'il va y avoir un foyer quelque part, ben c'est une source de résurgence et de recommencer encore à avoir une propagation de la maladie. En plus, il y a des réservoirs animaux qui sont probablement les chauves-souris. Donc, est-ce qu'on va être pris à donner des vaccins de façon annuelle? C'est possible pour certains sous-groupes. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien de temps va durer votre protection selon votre groupe d'âge, votre état de santé, etc. Donc, on va peut-être voir, par exemple, on va dire dans 3 ans, ben, si vous avez moins de 45 ans et vous êtes en santé, après 3 ans, bon nombre d'entre vous sont encore protégés, vous n'avez pas besoin de rappel. Par contre, si vous avez plus de 75 ans, ben, vous êtes mieux d'avoir un rappel annuel parce qu'on sait que la diminution de l'immunité avec l'âge, qu'on appelle l'immunosénescence, est beaucoup plus importante dans ce groupe d'âge-là. Donc, c'est fort possible qu'on soit pris à faire des rappels répétés à des populations plus à risque parce qu'ils répondent moins bien. Je pense par exemple aux dialysés, aux gens qui ont des traitements de chimiothérapie, aux gens qui ont des traitements qu'on appelle immunosuppresseurs, par exemple pour la maladie de Crohn ou pour des arthrites rhumatoïdes, donc des populations spécifiques. Pour les gens plus âgés, parce qu'on sait qu'ils répondent moins bien aux vaccins et que la durée de l'immunité est moins grande, après 6 mois, la tendance à chuter. Mais pour les plus jeunes et les plus en santé, ça risque d'être une autre stratégie. Mais on est là avec ce virus pour certainement quelques années, et dans cette optique-là, il va être à l'état, je dirais plus pandémique, mais à l'état endémique, c'est-à-dire qu'on vivra avec. Et donc, là, on est retourné quand même à une vie presque normale, je dirais, et c'est quand même encourageant à cet égard.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Maintenant avec nous, Daniel Paré, qui est le directeur de la campagne de vaccination, qui va donc orchestrer la distribution et pour être certain que la troisième dose se rende chez toutes les personnes qui sont concernées. Monsieur Paré, bonjour.
Ben bon matin, Monsieur Arcan.
Première question, là, vous, dans vos plans, là, on parle de combien de personnes pour la troisième dose jusqu'à maintenant?
Ben, écoutez, pour le premier groupe qui avait été identifié par le Comité d'immunisation du Québec, là, les personnes qui étaient immunosupprimées, on parlait de 140 000 personnes. Maintenant, avec le groupe qui a été annoncé hier, on parle de près de 200 000 personnes, soit qui sont des gens soit en CHSLD, en résidence personnes âgées privées et au niveau de nos résidences intermédiaires.
Est-ce que vous prévoyez un jour, parce qu'il y a beaucoup de questions, là, je comprends que c'est pour vous qui prenez la décision, là, mais pour les personnes âgées qui vivent, par exemple, en logement, seules, en couple, bref, qui ne sont pas dans des institutions?
Pas pour le moment. Encore là, les groupes qui ont été identifiés, ce sont des groupes qui justement, par définition, qui sont ensemble. Il y a plusieurs personnes dans un groupe. Il faut se rappeler, ils ont été vaccinés en premier. Donc, la distance-temps là, entre la deuxième dose et la troisième dose, ben, les gens qui ont été vaccinés en CHSLD avaient été les premiers à recevoir. Donc, c'est un peu normal avec l'espace-temps là, qui est entre les deux doses là, pour ce groupe d'âge-là. Et le comité d'immunisation nous ont dit qu'ils vont continuer de suivre la situation et bien sûr me tenir informé parce que un peu comme vous venez de me le mentionner, nous, on doit s'assurer que les vaccins sont disponibles et on doit s'assurer qu'on ait des gens pour les administrer.
OK. Quel est le niveau de stock actuellement de Pfizer et Moderna?
Présentement, dans les coffres au Québec, on a 250 000 doses de Moderna et 650 000 doses de Pfizer. Ça va être les deux vaccins là, qui vont être donnés en troisième dose. Et moi, j'ai aussi là, une dose, entre guillemets, stratégique là, au niveau fédéral, là, où on a demandé de garder de façon centrale aux besoins, qui est aussi encore un autre million de doses. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là.
Mais la demande est moins forte actuellement. On le voit, là, quand on est rendu à 85-90% de gens de vacciner une fois, deux fois. Est-ce que ces vaccins-là ont une date de péremption? Est-ce que vous devez les repasser à quelqu'un d'autre à un moment donné?
Ils ont une date de péremption, puis effectivement, on discute là avec des fois des autres provinces là, pour selon les dates, selon les avancements des campagnes. Justement, récemment, là, j'ai envoyé là près de 1000 doses de vaccins là, de AstraZeneca dans une autre province dans l'Ouest. Un, il y en avait besoin. Puis nous, ben, on était à peu près à 6 semaines là, de date de péremption. Fait que oui, on collabore avec les autres juridictions pour ça, pour s'assurer là, justement de qu'on puisse garder les vaccins et les administrer et surtout de ne pas les perdre pour des dates d'opération.
OK. Pour que ça soit très clair, là, la vaccination va se passer à l'endroit où habitent ces gens-là?
Principalement. Au niveau du CHSLD, au niveau des RPA, nous, la demande qu'on a faite aux établissements de santé, ça va être de se déplacer. Mais j'ai eu une question des fois si il y a une personne en résidence de personnes âgées qui est autonome et qui voudrait venir dans un site de vaccination de masse, bien, sur preuve là, sur preuve qu'il demeure dans une résidence personnes âgées, là, il pourrait aussi venir en site de vaccination de masse. Mais nous, on garantit qu'on va se déplacer dans toutes les résidences.
OK. Actuellement, on vaccine combien de personnes par jour?
Ces jours-ci, c'est une moyenne entre 7 à 8 000 doses de vaccins là, qui sont administrées. En moyenne, près là, autour de 1500 premières doses. Et c'est selon les annonces. J'ai hâte de voir aujourd'hui, suite aux annonces d'hier, des fois on voit des augmentations là, de doses, mais on est prêt, on est équipé et à la date où ce qu'on est rendu, là, faut, comme je pense que vous l'avez bien mentionné, on est déjà rendu à plus de 89% là, de première dose, fait que c'est un peu normal que ça diminue, mais pour les retardataires, les gens qui se décideraient aujourd'hui, on va être là. On ne veut pas donner l'excuse qu'on n'est pas accessible.
OK. Quand il y a eu ces deux annonces importantes, passeport vaccinal, vaccination obligatoire, avez-vous senti, puis je pense surtout à la vaccination obligatoire, là, une augmentation de la demande?
Oui. Lorsque la première fois M. Legault l'avait annoncé, là, on avait vu vraiment là, un 15% d'augmentation et ça s'est maintenu. Ça s'est maintenu, là, je vous dirais, à peu près jusqu'à dans les 10 derniers jours et on voyait qu'on gagnait, on a gagné là, des pourcentages. Encore aujourd'hui, comme je vous dis, on voit des premières doses là, qui des gens qui choisissent la vaccination et on est bien content. Mais c'est sûr que c'est moins. Mais comme je vous disais tantôt, on est là.
Okay.
On est même prêt aussi à discuter avec eux. Ça aussi, là, on a mis en place là, des personnes additionnelles. Si des gens veulent prendre plus de temps pour discuter puis comprendre un vaccin, on a aussi mis ça en place là, pour bien expliquer là, c'est quoi le vaccin COVID-19.
Est-ce que tous les employés de la campagne de vaccination, là, ceux qui travaillent dans les centres ou qui vont visiter les personnes âgées, bref, est-ce que vous êtes certain que tous vos employés sont doublement vaccinés?
Je dois vous avouer que non, je ne suis pas certain parce qu'encore là, le décret sur la vaccination obligatoire va être seulement effectif là, le 15 octobre. La très grande majorité, là, ça, je suis certain que oui. Mais dans chaque site de vaccination, je ne suis pas certain là, qu'ils sont tous vaccinés. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'ils sont tous protégés, qu'ils ont des masques, ils ont des gants, ils ont des jaquettes, etc. Mais c'est une des raisons. Avec la vaccination obligatoire là, qui va avoir lieu d'ici deux semaines, mais là, je pourrais répondre oui là, à la question que vous venez de me demander.
OK. Et compte tenu, justement, de ce décret, puis le fait qu'il y a X nombre d'infirmières, par exemple, qui, j'imagine, vont quitter, vont être suspendues sans solde, est-ce que... D'abord, vous mobilisez combien d'infirmières? Puis il y a bien des gens qui se disent, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait donner le vaccin puis envoyer les infirmières quelque part dans le réseau?
Nous, là, quand on a débuté notre campagne, vraiment pas beaucoup d'infirmières là, avaient été là, sollicitées pour la vaccination, sauf des retraités. Et les retraités, des fois, nous disaient, mais écoutez, moi, je suis prêt à revenir, mais pour le dossier de la vaccination, je suis prêt à contribuer. Je peux vous dire que tous les établissements de santé ont contacté tous les gens dans nos sites de vaccination, justement, là, quand on ralentissait, et ont offert là, des emplois, mais il y en a, et je sais qu'il y en a qui ont dit oui, mais il y en a d'autres qui ont dit, on est venu contribuer pour la cause, pour la vaccination et pas pour d'autres choses. Fait que ça devient un choix personnel, mais je peux vous dire qu'ils ont tous été contactés.
OK. Merci, M. Paré. Bonne journée.
Et merci à vous.
Au revoir. Daniel Paré, le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID, il est 7h45.